Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de la grande tchatch, le rendez-vous politique du journal Le Ravi en partenariat avec Radio Grenouille. Bonjour Michel Guéraud.
Bonjour Rafi Hamal.
Avec nous pour cette émission, Samuel Joshua, élu des quartiers nord, notamment du 13 et 14e arrondissement de Marseille, élu d'une des composantes de la France insoumise, le courant Ensemble de Clémentine Autain. Bonjour Samuel Joshua.
Bonjour à vous.
Une tradition dans cette émission que vous connaissez, vous êtes déjà venu, c'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Nous fêtons les 50 ans de 68, mais il n'est pas certain que l'imagination soit au pouvoir. Alors, dans le doute, cours camarade Joshua, car le vieux monde est toujours derrière toi. Votre sprint a démarré très tôt. Né à Alexandrie, vous avez 10 ans lorsque vous débarquez d'Égypte en 56 à Marseille. Vous y grandissez au nord, tout simplement, Parc Bellevue, l'une des cités les plus défavorisées de la ville. La plage n'est pas loin, mais c'est le pavé de l'engagement politique que vous saisissez dès demain. Vous n'avez pas encore fêté votre 14e anniversaire et vous adhérez au Parti communiste. Mais vous en êtes déjà exclu 4 ans plus tard. En 68, définitivement réaliste, vous demandez toujours l'impossible. Et lorsque plus tard, Billancourt se désespère, pour vous, ce n'est que le début. Vous continuez le combat en rejoignant en 79 la LCR d'Alain Krivine. Prof en sciences de l'éducation, en 60 ans de militantisme, vous êtes de toutes les manifs, mobilisations associatives, syndicales et politiques. Et si les élections sont des pièges à cons, vous n'en manquez aucune. Candidat aux municipales marseillaises en 95, 2001, 2008, 2014, avec l'étiquette LCR, puis NPA, puis Front de Gauche, vous êtes même tête de liste au régional en 2004. Tout pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Incorruptible, vous ne prenez donc pas le pouvoir. La seule fois où votre liste, celle conduite par Guy Hermier, emporte la mairie de secteur du 15-16 en 95, vous ne demandez pas un poste d'adjoint. Mais vous ne désertez jamais. Vous assumez sans faillir depuis 2014 un mandat de conseiller d'opposition dans la mairie d'extrême droite emportée par Stéphane Ravier. Vous refusez toujours d'abdiquer aux sirènes néolibérales de la start-up nation. Si l'ennemi du mouvement, c'est le scepticisme, vous avez donc rejoint les insoumis. Vivre sans temps mort, ça c'est gagné. Mais pour jouir sans entrave avec Mélenchon, cela risque bel et bien d'être la révolution permanente.
Samuel Joshua, une réaction à ce portrait à la sauce ravie, bien sûr.
Alors, il y a des aspects qui sont recevables, d'autres qui... non, mais ils sont recevables en entier, disons, mais d'autres aussi qui ramènent inévitablement un bilan, hein, parce que ça fait un moment, on n'y est pas arrivé, voilà, hein, c'est la chose est absolument évidente. Et donc, la question se pose de savoir si on avait tort d'espérer d'y arriver, ou si on a bien fait quand même de faire en sorte de creuser le sillon, en espérant que les choses puissent finir par aboutir, peut-être pas exactement dans la vision qu'on pouvait en avoir il y a si longtemps, mais en tout cas avec les mêmes espoirs d'une manière générale.
Michel Guéraud.
Ce cinquantenaire 68, ça vous paraît légitime, là, cette commémoration, ou ça vous exaspère un petit peu, là, cet aspect muséum?
Alors écoutez,
c'est le bon terme d'abord, commémoration?
Non, commémoration, c'est évidemment un terme qu'il faudrait mettre de côté, mais enfin, on voit bien ce qu'il y a derrière. Écoutez, je suis toujours très partagé, tous les 10 ans, je suis partagé sur ça, parce que d'un côté, je me dis qu'on discute toujours des mêmes choses qu'au 68, c'est-à-dire que, évidemment, moi, mon expérience, elle n'a pas changé, ce dont je me rappelle n'a pas changé, ce que j'ai oublié, je l'ai toujours oublié, et on me repose des questions 10 ans après, à peu près les mêmes. Et en même temps, je constate au fur et à mesure, donc au début je dis non, il y a des étudiants qui viennent faire des mémoires et des journalistes qui veulent discuter avec moi de l'affaire, je dis non, maintenant ça suffit. Et puis de l'autre côté, après, au bout d'un moment, je cède, et je cède à juste titre, parce que ça signifie que mai 68 n'est pas mort. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce pays, et des révolutions importantes qui se sont passées dont plus personne ne parle. Alors évidemment, ça fait plus longtemps.
Alors c'est quoi mai 68? C'est comme disait Garcia Marquez, parlait de Macondo en disant que c'était un état d'esprit. Mai 68, c'était un état d'esprit également?
Non, bien sûr, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui a marqué considérablement des générations entières. Le pays lui-même, on oublie ça parce qu'on considère que mai 68, c'est soit Cohn-Bendit, soit Georges Ségui, qui se bagarraient entre eux, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est tout le pays qui a été bouleversé. Même ceux qui ont voté pour faire en sorte que De Gaulle reste en place, savait bien qu'il ne pouvait pas rester en place et qu'il fallait changer toute la société. Et toute la société a changé. Donc, c'est pas seulement un état d'esprit. C'est un mouvement extrêmement puissant qui a bouleversé l'ensemble de la chose, mais qui a buté à la fois sur les difficultés d'aller plus loin. Bon, ça, c'est une autre question qu'on peut discuter sur le moment même de 68 ou les années qui ont suivi. Et puis, par le basculement libéral du monde qui s'est produit pas tellement plus tard, parce qu'en fait, l'inversion générale a commencé à partir du milieu des années 70. Et pour nous, en Europe, avec, l'impasse ou la défaite de la révolution au Portugal, et puis ensuite, la manière dont la transition s'est faite après le franquisme en Espagne, qui a été une surprise pour tout ce qui représentait la gauche radicale, parce que personne ne pensait qu'il pouvait y avoir une transition à la fois pacifique telle qu'elle s'est conduite, et de conversion de tout ce pays à des politiques qui sont finalement, pour lesquelles l'Espagne a rejoint la manière générale de concevoir le monde qui allait devenir dominante, c'est-à-dire le néolibéralisme.
Alors cette émission est diffusée le 24 mars, donc on ne sait pas comment s'est passé le 22 mars 2018, mais le 22 mars c'était Nanterre, hein, c'était le début donc des...
2018, c'est pas encore, c'est une date très importante qui va venir dans quelques jours, qu'il faut réussir.
Voilà, 22 mars 2018, mouvement social à la fois de la fonction publique, à la fois des cheminots. Bon, est-ce que cette fois-ci ça va y être? Est-ce que on a l'impression que tout passe, le rouleau compresseur de la République en marche semble ne pas trouver d'obstacle?
Ben, c'est une politique qui est conduite comme ça. Pardon, c'est une politique de sidération en réalité. C'est pour faire en sorte d'ouvrir. On a l'impression que tous les tiroirs dans lesquels étaient stockés des projets de réforme libérale sont ouverts en même temps, de manière à ce que plus personne puisse arriver à résister à ça. Alors, je vous dis pas que ça va échouer. C'est possible que ça réussisse. Ça réussit dans d'autres pays. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr pour une raison. Il y a deux raisons essentielles. Une qui a trait à ce qu'est la France et les rapports de force qui existent. L'ancien ministre Raymond Barre, alors ça parle pas au tout jeune, hein, je sais bien, mais enfin qui a été Premier ministre il y a longtemps, de droite, disait que la France est un pays de foucades. Et je pense que c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais avec la France comment ça peut réagir. Et on ne sait jamais comment ça peut réagir parce que c'est un pays qui est resté extrêmement attaché à ses services publics pour l'essentiel, à ses garanties, aux garanties du travail, à toutes les choses qui sont attaquées désormais. Alors, peut-être que ça va passer, mais peut-être que non. Et donc, on va voir à partir du 22 comment ça peut faire. Et les fragilités macroniennes apparaissent quand même d'une manière assez nette maintenant, c'est-à-dire à la fois sur le plan des résistances qui se développent sur beaucoup de fronts, et puis on peut le voir, alors moi je ne suis pas un électoraliste déchaîné, mais enfin les résultats des partiels sont particulièrement inquiétantes pour ce pouvoir.
Alors en même temps, c'est vrai qu'il y a un rouleau compresseur Macron, et on s'attendait à ce qu'il y ait une mobilisation, puisqu'on parle encore un peu de mai 68. Les leaders de mai 68, Cohn-Bendit, Goupil, Guémard, ont voté Macron dès le premier tour. Est-ce que vous avez été surpris par ça? Est-ce que vous êtes surpris après qu'il n'y ait pas de mobilisation?
Non, alors c'est deux choses différentes. Pour ce qui est de ces leaders de 68... vous avez encore, tout récemment, aujourd'hui je crois, ou hier, une déclaration de Gessmar qui souhaite le succès de Macron. Donc ça fait quand même pas mal. Mais faut pas se tromper quand même sur ceux qui ont fait 68. La plupart des gens qui ont été mobilisés en 68 sont restés du bon côté. La plupart. Mais même il y a des enquêtes, des thèses d'État, enfin des thèses scientifiques, universitaires sur cette question. On peut chiffrer à 90%. Quand je dis du bon côté, ça ne veut pas dire qu'ils soient obligatoirement restés à l'extrême gauche, hein. Ils ont pu aller au Parti Socialiste, ils ont pu aller au Parti Communiste, ils ont pu faire de la politique autrement, mais ils sont restés avec l'idée qu'il fallait changer ce monde. C'est une toute petite partie qui a glissé de l'autre côté, mais c'est une partie qui occupe le champ médiatique. Ça, on n'y peut rien, on va se battre sur ça. Mais ce bilan-là, moi, je le récuse complètement. Je le vois, moi, alors c'est peut-être pas très scientifique, mais dans mon entourage, la plupart de mes amis, tous mes amis, même des fois avec des gens qui sont allés très loin de ce que je faisais comme politique, sur lequel je me suis opposé, j'étais au Parti Socialiste, bon, j'étais à l'LCR, j'étais pas d'accord. Mais au Parti Socialiste, ils pensaient continuer la même bataille que ce qu'ils menaient à l'époque. C'est pas le cas pour ces personnes-là. Alors, c'est pas significatif de ce point de vue. Par contre, sur l'autre question que vous posiez, c'est-à-dire...
Est-ce que ça peut avoir des effets sur la mobilisation?
Est-ce que ça peut avoir des effets sur la mobilisation? Je crois pas. Par contre, la puissance de Macron, moi je la sous-estime pas du tout, la sous-estimais déjà pas à l'époque où il a gagné, parce qu'il a gagné de peu. On oublie ça parce que bon, il y avait en face de lui, il y avait le fascisme, enfin le fascisme, il y avait le Front National, il y avait Le Pen. Bon, mais l'essentiel chez nous en France, ce qui compte, c'est le premier tour de l'élection, c'est ce qui marque les rapports de force principaux. Là, il avait un petit quart de l'opinion des votants qui était en sa faveur. Et logiquement, c'est ce qui est en train de se passer. Ça redescend vers cette base qui a voté pour lui sur le premier tour. Mais il est fort du fait qu'on n'arrive pas à faire en sorte d'imposer une alternative. C'est ça qui est la véritable question. C'est-à-dire dans quelle mesure on peut arriver à l'affaiblir suffisamment, parce que pour que les gens s'engagent, il y a deux niveaux. Un, on ne peut plus supporter ce qui se passe, mais il faut avoir un espoir de faire quelque chose d'autre, parce que sinon ce qui domine, c'est le désarroi, le désespoir, l'individualisme.
Michel, est-ce que Jean-Luc Mélenchon a sous-estimé cette force de l'élection de Macron? Il avait promis un troisième tour social, les Insoumis espéraient que la bataille contre la loi travail allait être un levier politique aussi. Cette loi, elle est passée.
J'ai plusieurs niveaux à la réponse que je vais vous faire sur cette question-là. Bon, le premier, c'est l'appréciation globale, générale, qui ne se mesure pas sur quelques mois. Et donc, l'idée qu'il avait que ce pouvoir est fragile, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne va pas gagner, c'est deux choses différentes, mais qu'il est quand même, il a beaucoup de fragilités, et que ces fragilités peuvent se manifester à un moment ou à un autre. Un, là-dessus, il a eu raison, et il a raison. Deuxièmement, est-ce que ça pouvait se manifester sur la question de la loi travail? Là, ça se divise encore en deux. Les propositions qu'il a faites, elles ont été prises comme elles ont été prises, mais l'idée générale qu'on ne pourrait pas arriver à battre Macron si on ne s'y mettait pas tous ensemble, n'était pas quand même une idée idiote. C'est une idée que tout le monde peut partager. Et quand j'ai dit tout le monde, c'est tous les syndicats, ce n'était pas le cas, puisqu'ils étaient divisés. Il y avait des syndicats qui étaient dans la mobilisation, les syndicats qui étaient du côté de Macron, donc ça compliquait quand même pas mal les choses, et en relation avec l'ensemble des citoyens, autrement dit, y compris les formations politiques, associatives. Bon, c'est ce qu'il faut faire maintenant, peut-être qu'on y viendra un peu plus tard. Là-dessus, il avait raison, ça ne s'est pas fait. Mais il y a une troisième chose dont il faut tenir compte, c'est que le thème de départ était la question de la modification de la loi travail. Or, on venait de se battre sur cette question-là quelques mois précédemment, avec la loi El Khomri. On avait mobilisé ce qu'on pouvait mobiliser, et on avait perdu. Et donc l'idée que la première bataille qui allait se dérouler était justement celle-là, et que sur celle-là, on allait arriver à gagner, ça, c'était peut-être plus discutable, parce que les gens gardaient le souvenir du fait que peut-être qu'on pouvait gagner, mais il fallait hausser largement le ton, puisqu'on venait de mener cette bataille, et qu'on l'avait perdu.
En même temps, Samuel Joshua, gouverner par ordonnance, réformer par ordonnance, comme le fait le gouvernement, est-ce que ça coupe un peu les jambes des protestants? Est-ce que ça bloque un peu toute velléité de contestation?
Ben, plus ou moins, parce que la dernière fois, enfin, il y a longtemps, où cette question s'est posée, c'est en 67, avec les ordonnances de De Gaulle. Donc, bien sûr qu'il est passé. Oui, il est passé. Il est passé en écrasant tout, en faisant preuve d'autoritarisme. Il a réformé, et il a pris ensuite un mouvement d'une ampleur exceptionnelle. Donc, ces façons de faire, qui sont les façons autoritaristes, Dominique de Villepin vient de faire une déclaration mettant en garde au gouvernement contre l'autoritarisme. Dominique de Villepin, qui connaît l'affaire. Donc, cet autoritarisme, il a des limites. Il peut gagner, mais il a des limites. Alors, reprenons les choses une à une. Les ordonnances sur la loi travail, il les avait annoncées. Donc, il avait un argument démocratique en disant j'ai pris personne en traître, je vous ai dit que c'était les ordonnances, je l'ai fait. Mais là, il recommence pour la SNCF, ça, c'était pas dans son programme. Donc, il recommence à travailler de cette manière-là, en écrasant tous les corps intermédiaires, en particulier tout ce qui peut se passer au Parlement. Alors, bien sûr, ça le permet d'aller plus vite, c'est la marque d'un rapport de force pour lui, mais il prend un risque considérable. Et ça me permet de faire un deuxième commentaire à ce sujet. C'est que les gens considèrent que Macron, il est libéral-libéral. Libéral sur le plan économique, politique, si on veut, et libéral sur les questions sociétales, sur les façons de faire, sur les modalités de faire. Bon, moi, j'ai jamais cru une chose de ce genre-là. Et on voit bien que c'est pas possible. Parce que c'est tellement difficile d'imposer à un peuple comme le peuple en France ses politiques libérales qu'inévitablement, ça glisse du point de vue autoritaire. Et alors, avec une généralisation de cet autoritarisme, qui est stupéfiant. Sur la question des migrants, où ça prend de plein fouet des élus des députés d'En Marche qui voient bien que ça ne va pas. Nous avons la politique la plus à droite que nous avons pu imaginer depuis le début sur ces affaires-là, depuis des décennies. C'est Macron, soi-disant libéral, qui les amène. L'attitude vis-à-vis de la presse, c'est quand même une chose absolument inouïe qu'un président traite la presse comme il traite la presse. Bon, avec la maîtrise de sa communication, l'idée de la maîtrise, parce que tôt ou tard, ça finira par montrer ce que ça peut représenter. Donc, le commentaire à ce propos, oui, c'est une preuve de force, mais c'est aussi une preuve de faiblesse. Alors, c'est une preuve de force, je ne peux pas le nier, s'il passe, mais il aurait eu raison, mais c'est une preuve de faiblesse, parce que s'il était aussi assuré que ça de la justesse de sa politique, eh bien, il va devant le Parlement, il discute, il va devant les télés et pas avec l'interview qu'il a faite absolument incroyable tout récemment, bon, avec Delahousse. Il débarde à cette question-là, il permet la discussion sur le problème. On verra, mais c'est autant une preuve de faiblesse qu'une preuve de force.
Michel Guéraud. Alors on va revenir sur la presse un peu plus tard. Tout de même, Code du travail, donc c'est fait, loi travail. Là, il y a du lourd avec les enjeux autour de la réforme de la SNCF. C'est le statut des cheminots. Mais derrière, il est annoncé la réforme des retraites. Et on se souvient, on parle de 68, mais 95, qui a été le mouvement social le plus important entre maintenant et 68, où les deux dossiers étaient liés, les deux mouvements sociaux en tout cas. Est-ce que là, il n'y a pas, dans cette volonté de normaliser la France dans le paysage néolibéral européen, est-ce qu'il n'y a pas un dossier symbolique, une bataille qui serait peut-être la mère des batailles pour normaliser la France en fait à travers ces deux dossiers?
Vous avez entièrement raison, bon, mais je pense que le fait de le prendre dans cet ordre-là, c'est-à-dire d'abord la SNCF et ensuite on verra pour le reste, est parfaitement révélateur. C'est-à-dire que on sait maintenant, parce que c'est dit de tous côtés, la SNCF n'a pas besoin de cette réforme-là pour les problèmes qu'elle rencontre. Même du point de vue libéral, c'est pas la réforme du statut n'a strictement rien à voir avec tout ce que nous discutons, mais vraiment rien. Donc c'est un aspect purement symbolique, de manière à imposer une défaite à un secteur que l'on considère avoir encore les moyens en masse de résister par les voies traditionnelles, c'est-à-dire la grève, la mobilisation, la manifestation, aux politiques qui sont conduites. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que Thatcher a fait quand elle est arrivée au pouvoir avec la grève des mineurs. Si les gens se souviennent de ça, il y a eu des films aussi, Ken Loach, etc., autour de...
En même temps, Samuel Joshua, je me fais un peu l'avocat du diable, en quoi changer le statut, faire évoluer le statut de la SNCF et de ceux qui y travaillent serait un point d'acmé du libéralisme
Parce que c'est l'idée que ce qu'on ne peut pas supporter, c'est l'emploi à vie. C'est le fait que, comme la fonction publique, parce que la fonction publique viendra juste après, c'est l'idée que, à partir du moment où vous avez l'emploi à vie, vous ne travaillez plus. Vous travaillez plus suffisamment. Vous n'avez plus que des privilèges. Alors que le fait de pouvoir avoir une garantie d'emploi, alors enlevons à vie, mais au moins une garantie d'emploi, qui ne soit pas, vous rappelez que l'ancienne présidente du MEDEF disait, mais bon, la précarité, c'est comme l'amour, c'est la vie. C'est-à-dire, c'est toujours comme ça. Mais du fait de la précarité, vous avez une population qui est toujours sur le qui-vive, et toujours qui ne peut pas arriver à construire réellement sa vie d'une manière suffisamment stable pour pouvoir se projeter dans un autre avenir que simplement le travail qui est conduit. Donc ce qui est en cause, c'est de détruire toutes les possibilités de sa stabilité. Et pour pouvoir attaquer cette stabilité partout, vous avez la réforme du Code du travail, les possibilités de licencier plus facilement dans le privé, mais vous ne pouvez pas laisser subsister des endroits dans lesquels, par définition, on ne touche pas à ça. Mais ils vont toucher le statut de la SNCF, comme ils l'ont fait par la Poste avant, parce que c'est le même mécanisme. Et puis ensuite, ce sera l'ensemble de la fonction publique, les profs et tout, qui seront sur cette... C'est la destruction de l'idée que l'emploi est garanti. Et si l'emploi est garanti, alors on peut faire autre chose. Mais juste un commentaire à ce propos. L'idée de voir l'emploi garanti égale privilège laisse de côté une question beaucoup plus fondamentale. C'est que c'est justement parce que vous avez ces statuts-là qu'il y a un dévouement au bien du pays que vous ne trouvez dans quasiment aucun autre pays. La France, par le système, notre système de santé, tout le monde sait qu'il est à l'agonie. Il tient sur quoi? Il tient sur le dévouement des gens qui sont là. Ça ne peut pas être autrement. Il tient sur le fait que les gens ont un dévouement à la chose publique qui fait que on ne peut pas de ne pas faire en sorte que ça fonctionne.
Oui, mais ce que retiennent les gens, c'est que les trains n'arrivent, les TER n'arrivent plus à l'heure, etc. Il y a une exaspération dans la dégradation du service public qui fait finalement que les gens sont prêts à dire bah, faut que ça change et pourquoi pas, les statuts, les cheminots, on s'en fout.
Mais c'est tout, vous avez entièrement raison, mais c'est une politique. C'est une politique qui a été écrite par Noam Chomsky, qui est un linguiste, mais enfin bon, là, il n'est pas en tant que linguiste, en tant que politique américain. Comment faire en sorte de détruire un service public, hein, vous empêcher qu'il fonctionne bien? Parce que vous lui enlevez les crédits, vous l'attaquez, vous faites en sorte qu'il ne puisse pas bien fonctionner. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous dites aux gens, écoutez, ça ne va pas marcher. Regardez ce qu'ils ont fait, par exemple, pour la réforme d'entrée à l'université. Ils ont installé un système de sélection. Je ne sais pas ce que ça va donner, parce que la lutte est en cours. Mais enfin bon, ça fait 20 ans qu'ils essayent, ça fait 20 ans qu'ils se cassent les dents dessus. Comment ils ont fait? Ils ont fait, à l'époque de Hollande, hein, c'était déjà pas Macron, ils ont installé un système de fou, qui est le tirage au sort. Vous étiez tiré au sort à la fin du bac pour savoir si vous pouvez entrer à l'université. Et donc vous trouvez évidemment des situations dans lesquelles des gens qui ont des résultats exceptionnels au baccalauréat, des gens même qui ont des mentions très bien au bac les plus prestigieux, au bac S, qui se retrouvent sans université au mois de septembre. Et donc ils viennent vous dire, ça c'est pas possible, c'est de la folie. Et toute la France dit, c'est de la folie. Une fois que vous avez fait ça comme destruction du service public, après vous dites, ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'une seule solution, on le fait de cette manière-là. Alors que ce qu'il lui fallu faire à cette époque-là, c'est tenir compte de ce que tout le monde savait, parce qu'on le sait depuis que les gens rentrent en sixième. On sait que les effectifs universitaires allaient augmenter. Et ils n'ont strictement rien fait pour faire en sorte que les effectifs qui étaient en train de monter puissent trouver leur place à l'université. Donc vous détruisez le service public, et puis ensuite vous dites, ben voyez bien, il faut réformer.
En même temps, pour rester sur la SNCF, au niveau régional, les voies de TER sont promises à la concurrence avec le privé. Le président de la région, Renaud Muselier, lui-même le souhaite ardemment. C'est quasiment acquis. Le gouvernement va se concentrer sur les lignes, sur en tout cas ce qui rapporte le plus, comme à La Poste, en l'occurrence le TGV, et laisser les régions à la concurrence.
Ben écoutez, ça sera une catastrophe comme on le connaît dans d'autres pays. Je vous donne un exemple tout simple. Moi, je sais bien que ça marche pas. Par exemple, les trains s'arrêtent plus dans les quartiers nord chez moi. Ils s'arrêtent plus. Bon, parce que on va améliorer la voie, parce qu'il faut faire en sorte d'aller plus vite, aller jusqu'à Aix plus facilement. Les stations qui sont dans mes quartiers ne sont fermées. C'est-à-dire, elles sont fermées. Exceptionnellement, il y a quelques trains qui s'arrêtent. Mais ça a diminué d'une manière considérable. Là.
Vous êtes à deux doigts de faire du complotisme, là, quand même, vis-à-vis de la SNCF.
Non, je dis pas qu'il la sabote. Volontairement. Ça, c'est un autre aspect. On discutera plus tard. Mes propres quartiers, de toute façon, c'est la dernière roue du carrosse pour tout le monde, y compris pour là. Ça, c'est une chose. Mais est-ce que ça sera mieux avec la concurrence? Qui va s'arrêter chez nous? Qui va s'arrêter dans les quartiers nord? Qui va faire de l'argent avec nous? Mais personne. Donc, une fois qu'il y aura la concurrence, la concurrence ira dans les secteurs dans lesquels ils peuvent faire de l'argent. Mais qui va s'occuper des petites lignes? Qui va s'occuper des endroits où c'est plus difficile? Absolument personne. Donc l'idée générale, c'est une destruction du service public, de l'esprit du service public, de l'équipartition de la mobilisation du pays pour tout le monde, et ensuite en espérant que ça marche. Et en plus, je tiens à vous faire remarquer que ça ne marche pas, parce qu'on a déjà les bilans de ça. Ça, c'est l'aspect, qui devient énervant, on ne peut pas dire autrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas débattre de ces questions-là, parce que personne n'en débat. Vous avez, je ne parle pas de vous, évidemment, parce que vous m'invitez pour en débattre, hein, mais vous avez sur un nombre considérable de plateaux des gens qui vous présentent la privatisation comme étant la solution à l'ensemble de ces problèmes, sans regarder les endroits où ça a déjà été fait et où c'est partout très mauvais. Écoutez, il y a une majorité considérable de la Grande-Bretagne qui veut revenir sur la privatisation. C'était le point central du programme de Corbyn qui a failli gagner l'élection quand même, alors que tout le monde disait que c'était lamentable, il allait se faire écraser. Corbyn, le chef du parti travailliste en Grande-Bretagne. C'était le retour sur ça parce que ça ne marche pas, parce que c'est très mauvais. C'est le cas en Suède. C'est le cas dans tous les pays dans lesquels cette privatisation a été conduite. Ça ne résout aucun problème. Au contraire, ça ne fait qu'augmenter les prix en définitive. Et de toute façon, ça ne permet pas de résoudre des problèmes que nous mettons aussi au-devant, c'est-à-dire les secteurs dont on sait à l'avance que de toute façon, il n'y a pas un rond, il n'y a pas un euro à gagner, il n'y a que des euros à perdre, mais sur lequel il faut qu'on décide de savoir si on va laisser les petites lignes, si on va laisser les quartiers paupérisés comme les endroits où j'habite. Ça, c'est des questions qu'il faut poser aussi. Mais on a les bilans sur ça. La privatisation ne résout aucun de ces problèmes.
Michel Garot. Vous parliez tout à l'heure de l'université et de la réforme. Là aussi, encéphalogramme plat, on parle de 68 et de ce surgissement, de cette jeunesse en lutte, etc. Mélenchon aussi a plusieurs fois évoqué la jeunesse et la dynamique qui avait été celle de sa campagne présidentielle avec justement peut-être un engagement des jeunes qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Mais là, nada pour l'instant. Alors comment vous expliquez ça? Vous connaissez bien cet univers-là. Vous aviez fait un colloque, hein, Défendre et transformer l'école pour tous, etc. Vous avez travaillé sur le sujet. Comment expliquer que cette réforme-là qui introduit de la sélection, elle ne fait pas réagir plus que ça?
Bon, d'abord, c'est en cours.
C'est-à-dire qu'avec
les jeunes, on ne sait jamais. Et d'ailleurs,
il y a beaucoup d'inconnus quand même.
Non, mais les jeunes, c'est sûr qu'on ne sait pas. Bon, alors c'est très étonnant aussi parce que dans mon propre camp, dès que c'est bloqué, il y a des gens qui vous disent ça va partir chez les jeunes. Pourquoi? Parce que chez les jeunes, c'est possible que ça parte, on ne sait pas. Mais en fait, ils ne savent pas si ça va partir. Bon, on ne peut pas savoir chez les jeunes. Bon, maintenant, cela dit, je ne vais pas éviter la question que vous posez, je la vois. Je vois bien la difficulté de la mobilisation. Il y a un aspect, il y a quelqu'un qui a écrit, alors c'est une métaphore, hein, qui pose la question, quelle a bien pu être la pensée de la personne qui a coupé le dernier arbre de l'île de Pâques? C'est vrai que l'île de Pâques, il n'y a plus de végétation. Donc il y a bien quelqu'un qui a coupé le dernier arbre. Bon, et la question, c'est à quoi il a bien pu penser? Et la réponse à cette question, c'est à rien. Parce que ça fait longtemps que la question ne se posait plus. Et donc, vous pouvez avoir une situation dans laquelle la dégradation est arrivée à un point tel, d'un côté, et l'idée qu'on puisse avoir un autre système est affaiblie à un point tel, que les gens ne sont pas pour. Mais ça passe quand même, parce que la question ne se pose plus, parce que, comme vous l'avez dit, l'idée, c'est celle de Macron. Maintenant, la France, ça suffit. Il faut qu'on fasse comme le reste du monde. Et que finalement, on va y arriver, faire le reste du monde, etc. Bon, donc le temps que les gens se rendent compte de où ça bloque, de pourquoi ça bloque et de comment ça bloque, ça met du temps. Donc il y a une question idéologique absolument certaine, celle qui a conduit à ce que Macron gagne quand même, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il a gagné quand même l'élection, même si de manière assez faible, bon, et il a gagné sur ces bases-là. Donc ça se revoit maintenant. Est-ce que c'est définitivement joué? Bon, on ne sait pas. Et en particulier pour la jeunesse, c'est une question, on ne sait pas, parce que le temps que les réformes soient comprises dans leur dynamique générale, dans ce qu'elles peuvent signifier d'une manière plus générale, il faut un certain temps. Et après, bon, écoutez, on verra bien. Et non. Puis, il est possible que les jeunes soient, pour une fois, eux, emportés par la mobilisation des adultes. Ça peut tourner dans l'autre sens aussi.
On reste dans la même veine, celle des privatisations. Maintenant, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a confirmé dimanche des privatisations importantes à venir. Et je le cite, « Plutôt que de toucher des dividendes régulièrement d'entreprises nationalisées, l'État préfère consacrer 10 milliards d'euros issus de futures privatisations afin de financer des recherches sur l'intelligence artificielle, le stockage de données ou encore les énergies renouvelables. Le gouvernement, lui, a déjà indiqué qu'il allait céder une partie de la Française des Jeux, qui rapporte beaucoup d'argent, tout en gardant le monopole. Les aéroports de Paris vont être privatisés. Alors, c'est la dynamique irrémédiable ?
Écoutez, c'est une dynamique qui vient d'il y a très longtemps, hein, puisque c'est pas pour faire de l'antisocialisme de bas étage, mais le gouvernement qui a le plus privatisé dans ce pays, c'est le gouvernement de Lionel Jospin. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles il a conduit au désastre de 2002. C'est-à-dire que les gens voyaient bien qu'entre le discours et puis l'activité, la situation n'était pas la même. Bon, une fois mis ça de côté, il y a deux problèmes. Il y a les investissements nécessaires, par exemple pour l'intelligence artificielle. Je n'ai pas regardé le problème de près, mais admettons qu'il ait raison. Donc il y a des milliards à trouver là-dedans. Mais les milliards, c'est ceux qu'il a donnés pour l'impôt sur la fortune. On les a, les milliards. Il suffit de les reprendre. Donc ce n'est pas la peine d'aller chercher dans les privatisations. Il peut les prendre là. Non, c'est un autre choix qu'il fait. Et les privatisations en question, vous avez cité un certain nombre de privatisations possibles, mais la liste, on ne la connaît pas. Donc on ne la connaît pas encore. Donc on ne sait pas ce qui va être privatisé là-dedans. On verra bien. Mais dans ce qui est cité, il y a de quoi quand même bondir, parce que les aéroports, c'est pas n'importe quoi. Quand vous arrivez d'un pays étranger, vous débarquez sur un aéroport, par exemple vous débarquez à Orly, vous débarquez à Roissy, c'est un aspect stratégique. Comment on peut donner ça en gestion au privé? Et après, on va le faire le baratin en disant on va se protéger des islamistes, des machins, on est en train de liquider stratégiquement les endroits même où, normalement, la puissance publique devrait certainement pas faire autrement que ce qu'elle fait. Et puis revenons un peu en arrière. de l'argent, on peut retrouver dans les autoroutes. Les autoroutes en question qu'on a bradées d'une manière stupéfiante, et ça, c'est franchement, c'est pas moi qui le dis. Vous savez, c'est celui qui est toujours en pointe là-dessus, c'est François Bayrou, qui s'est opposé à l'époque à l'affaire et qui dit que c'est le plus grand scandale des 20 dernières années. On peut les reprendre, puisque c'est une vache à lait. Et l'État s'en est débarrassé pour rien, ce qui montre qu'il y a perdu considérablement de l'argent. Là, c'est pas l'aspect stratégique, mais c'est une question qui peut se poser. Donc, ces façons de voir l'affaire en disant « cherchons de l'argent, regardons là », et puis, tout le monde veut bien, c'est un fusil à un coup. Une fois que vous avez privatisé, vous avez vendu des bijoux de famille, comment on va faire pour les fois d'après? C'est une politique de gribouille. Qu'est-ce que ça résout comme question?
La Grande Tchatch, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatch, le Ravi, avec nous aujourd'hui, Samuel Joshua, Michel Guéroux.
En dernière question un peu nationale, mais on va vite revenir au territoire. Vous disiez tout à l'heure, mais le problème, c'est peut-être les alternatives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le sentiment qu'il y a une alternative assez puissante pour mobiliser les gens. Bon, alors, quid de la proposition, la France insoumise, de cette dynamique née pendant la présidentielle et qui semble retomber aussi les dernières, vous parliez aussi des législatives partielles, elles ont pas été gagnées par les candidats insoumis.
Non, mais là il faut regarder il faudra de plus près.
On
va pas rentrer dans chaque cas. Globalement, les partielles, on le sait depuis très très longtemps, les seuls moments dans lesquels des partis qui peuvent arriver à faire des voix, c'est des partis que ces partis peuvent concourir à gagner l'élection. C'est pour ça que vous trouvez des situations dans lesquelles le Parti Socialiste tombe à 2, 3, et des fois, il a 70, comme vous venez de voir dans une autre partielle. Bon. Ou même la France Insoumise.
À 5% dans une élection dans l'Ouest de la France.
Mais aussi, on a été battu de 250 voix en Guyane. Donc, parce qu'on pouvait concourir réellement à la victoire. Globalement, si vous regardez les résultats, ce qui est exceptionnel dans des partielles, c'est que les partis, comme le Front National ou d'autres partis, qui ne peuvent pas concourir, s'affaiblissent considérablement lors des partiels. C'est le cas aussi d'En Marche, mais pour d'autres raisons, parce que eux, ils ont une question de sanctions politiques. Pour l'essentiel, en moyenne, la France Insoumise se maintient, mais elle ne monte pas. Ça, c'est vrai, c'est la question qu'on est en train de discuter. Alors, est-ce que c'est une question d'alternative, au sens où on saurait pas quoi faire? Ça, c'est pas ce que je pense. Moi, je pense que le programme qu'a présenté la France Insoumise au moment de la présidentielle, on peut toujours l'améliorer, on peut toujours l'approfondir, mais pour l'essentiel, on ne va pas inventer des choses tellement meilleures que celles-là. Et ce programme-là a mobilisé 20% des électeurs et pourrait en mobiliser encore beaucoup plus. Donc quand je parle de la crédibilité de l'alternative, ce n'est pas un contenu de programme. Ça, on a déjà. On sait ce qu'on pourrait faire. Par contre, c'est de savoir s'il y a un espoir suffisant qui se mobilise derrière l'idée qu'on peut y arriver. Et c'est cette question-là. C'est-à-dire la seule chose qui bloque réellement, c'est l'idée que les forces existent pour arriver à voir l'alternative en question.
Vous parlez de la valise, vous parlez du contenu de la valise, vous ne parlez pas du porteur de valise. Est-ce que les gens, finalement, ne portent pas crédit ou trop peu crédit à Jean-Luc Mélenchon, celui qui l'a porté, ce programme, celui qui le porte encore, celui qui symbolise l'opposition?
Oui, mais Mélenchon lui-même dit, parce que c'est une évidence, qu'une fois que vous avez le programme, c'est pas un individu qui peut porter. La seule possibilité, c'est que les gens s'engagent en masse pour arriver à soutenir ce programme ou un autre programme. Mais s'ils sont d'accord avec ce programme-là, qu'ils se mobilisent en masse et qu'ils puissent avancer dans cette mobilisation. Donc c'est une dynamique. Il faut que les gens puissent croire en leur propre force pour arriver à faire en sorte que l'alternative écrite, le programme, celle qu'on connaît, commence à devenir réellement quelque chose.
D'accord, Samy, mais est-ce qu'avec Mélenchon, comme avec Macron d'ailleurs, d'une certaine façon, et est-ce qu'il n'y a pas une espèce de vis-à-vis entre LFI et LRM, entre cette promesse d'horizontalité et finalement une hyper-verticalité des choses? Donc on a un président jupitérien qui le revendique, et on a à la France Insoumise une hyper-personnification avec ce que ça peut avoir de puissant et de mobilisateur dans des temps électoraux. Et peut-être d'handicapant pour créer des dynamiques collectives. Hyper-personnification. Est-ce que vous pensez que Mélenchon incarne trop...
Non, mais je vais venir à cette question, parce qu'évidemment, elle travaille tout le monde, donc je vais vous répondre sur cette question-là, mais c'est pas exactement la même que celle qu'on m'avait posée tout à l'heure. Non. Parce que celle-là repose pas sur le mouvement La France Insoumise en tant que telle, mais repose sur le sentiment qui existe dans la population. Donc si dans la population, continue à dominer l'idée que c'est le président des riches, mais qu'on n'y peut pas grand-chose. Écoutez, c'est ce qui se passe sur le marché, enfin un des marchés dans lequel je milite régulièrement, le marché de Frévalon. Je vois les gens, on distribue en disant c'est le président des riches. Tout le monde est d'accord. Il y a personne. On ne sait même pas la peine de distribuer le tract. Tout le monde le sait. Mais les gens nous disent, un, il a été élu. Ça, c'est un premier problème. En disant, bah, écoutez, bon, alors on a perdu. Et on a perdu pour 5 ans. Et deux, on n'y peut rien. Donc c'est cette question-là qui est en cause. Ce n'est pas tellement de comprendre Mélenchon, de comprendre Macron, de comprendre les programmes. Tout ça, c'est une autre question. Maintenant, je viens à la question que vous me posiez. Non, ce n'est pas comparable. Parce que quand on dit que la France insoumise, c'est Mélenchon, c'est évidemment vrai. Bon, quand je vais distribuer au marché de Frévalon, quand les gens savent pas qui je suis, je dis, ben, je viens pour Mélenchon. Et tout de suite, les gens voient de quoi on peut être, de ce qu'on peut représenter. Mais regardez le groupe parlementaire. Un des succès les plus considérables de la France insoumise, c'est son groupe parlementaire et les activités qu'il mène. Et la façon de les mener. Et le nombre de batailles politiques qui ont pu être conduites. Je sais qu'on veut leur enlever le droit d'amendement, enfin leur réduire le droit d'amendement, mais ce n'est pas que le droit d'amendement. Il y a eu des propositions régulières pour faire en sorte de montrer des choses différentes et des façons de faire différentes. Or, ce groupe est particulièrement... Il est présidé par Jean-Luc Mélenchon, mais il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon qui parle. C'est un groupe dont la diversité est admise par tout le monde, non seulement du point de vue des forces politiques qui sont représentés, puisqu'il y a des gens qui viennent d'ensemble. Nous avons trois députés qui sont toujours ensemble. Bon, à l'intérieur d'un groupe sur 17, c'est quand même pas...
D'accord. Je vais vous citer. C'était en 2016 sur votre blog, sur Mediapart. Vous parliez de la figure du chef. Vous écriviez, pour la tradition émancipatrice qui est la nôtre, c'est en tant que tel un immense problème, la négation en acte de l'horizontalité proclamée, le chef.
Oui.
Dans une perspective en plus revendiqué populiste. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas une tension autour de cette figure de tribun qu'incarne...
Là, on serait plutôt dans la verticalité du pouvoir.
Alors, je vais dire mon sentiment profond, puisque à la réflexion de cette question-là, moi, ce qui me travaille plus, ce n'est pas le positionnement de Mélenchon à ce propos, parce que quand Mélenchon parle, sa voix porte inévitablement plus que quand Clémentine Autain parle. Bon, mais à ça, on n'y peut rien. C'est pas ça la question. Dans la structure générale de la France insoumise, il n'est pas prévu que ce soit comme ça. Il n'y a rien qui dit que ce que dit Mélenchon vaille mieux que ce que dit Clémentine Autain. Il n'y a pas de chef de ce point de vue-là. Il n'y en a pas. La seule chose qui les lie ensemble, c'est le programme, c'est l'avenir en commun. Mais après, il y a des points, par exemple, sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Mélenchon dit une chose, Clémentine Autain dit une autre chose. Et puis la voix de Mélenchon porte plus que celle de Clémentine Autain. Là-dessus, c'est pas la même question. Dans la structure générale de la France insoumise, il n'y a pas, contrairement aux options populistes de gauche qui sont celles de Podemos, qui sont celles d'autres partis, il n'y a jamais eu de théorisation de la place du chef. Et dans les écrits de Mélenchon, que je connais bien, enfin pas la personne de Mélenchon, mais les écrits, je connais très bien, cette question n'a jamais été défendue en tant que telle, à aucun moment.
Mais dans la pratique, la structuration de la France insoumise a été un peu repoussée en disant, Mélenchon l'explique d'ailleurs, quand on le rencontre, quand on lui pose la question, il dit, on fait mouvement, il ne faut pas trop structurer, il faut éviter la forme partie. Où sont les endroits où on peut débattre et on peut dire on est en désaccord sur tel et tel point?
On peut le dire partout.
On peut le dire, mais où on peut
en permanence
voter ou...
Alors, le vote, ça, c'est une question différente. Mais déjà, la France insoumise, c'est polycentrique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs endroits qui représentent ce que peut penser la France insoumise. Le rôle du groupe parlementaire est considérable. Quand Ruffin parle, il ne parle pas pareil que Mélenchon. Il a des façons de dire, il a des thèmes qui sont parfois différents de Mélenchon. C'est encore différent, par exemple, avec Daniel Obono. Tout le monde sait que les positions que Daniel Obono a sur certaines questions ne sont pas celles de Ruffin. Encore sans parler de Mélenchon, c'est une certitude. Eh ben, est-ce que ça a posé un problème? Non, la France insoumise vit avec ça. Donc c'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas cette diversité. Elle existe, on la voit. Maintenant, la structure générale du mouvement, oui, là, il y a une difficulté parce qu'on construit du nouveau. Et construire du nouveau, c'est compliqué. Alors il y a deux choses. Un, de l'intérieur de la France insoumise que je connais, puisque j'y milite, je sais que l'idée de revenir à la structuration des partis comme on a connu avant est quelque chose qui... les gens ne pensent pas que ça puisse être l'issue. ce qu'on appelle par les partis, c'est pas la question de démocratie, pas démocratie, mais c'est l'idée, on fait un congrès local, on fait un congrès de quartier, on fait un congrès de ville, on fait un congrès départemental, on fait un congrès national, tout ça, ça fait des pyramides d'élus qui sont redevables les uns des autres, etc. Bon, cette idée qui est juste d'un certain point de vue, c'est pas vrai qu'elle est dans l'aspect démocratique, incontestablement, mais elle conduit, de ce que je connais moi, parce que je sais bien, j'ai fonctionné comme ça, à l'idée qu'en définitive, pour arriver à avoir son mot à dire, il faut être dans une des tendances de ce parti. Il faut passer par là pour espérer pouvoir avoir une influence en définitive. Les gens veulent pas ça, ils veulent pouvoir avoir une influence immédiate. Donc, ils veulent pas se passer. Mais est-ce qu'on a inventé un futur qui permet de faire en sorte d'assurer à la fois l'efficacité, donc le fait de collaborer tous ensemble, qui nécessite une certaine verticalité, à un moment ou à un autre, et l'horizontalité, c'est-à-dire que les initiatives soient pas simplement des gens qui font des initiatives dans tous les sens, mais qu'elles puissent réellement converger et faire en sorte d'élaborer par la base. Si vous me posez la question, est-ce qu'on a résolu cette question, la réponse est non. Mais vous m'avez pris sur la question du chef, qui travaille beaucoup parce que Mélenchon, etc., et là, c'est une question théorique, c'est pas une question pratique. Parce que pratiquement, on voit bien qu'il y a un problème de chef avec Mélenchon et d'autres. Bon, quand il parle, c'est pas pareil que tout le monde, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas de théorisation de cette question-là au sein de la France insoumise. Et elle pourrait y être. Parce que du point de vue des théorisations que nous voyons dans d'autres mouvements proches, hein, comme Podemos, c'est inscrit dans la théorisation elle-même. Là, c'est pas le cas. Et c'est quand même un avantage. Maintenant, ça signifie pas du tout que les problèmes sont résolus. Ça avance au fur et à mesure. On verra bien comment arriver à construire quelque chose de nouveau. Mais construire quelque chose de nouveau à échelon... Là, il y a 500 000 personnes qui sont un peu plus sur la plateforme. Je sais pas s'il y a 500 000 qui sont encore mobilisés par la France insoumise, mais enfin, ça compte quand même par centaines de milliers. Arriver à faire en sorte de créer du nouveau avec ça, c'est un peu plus compliqué. Mais en avoir la vision que les gens en ont, c'est-à-dire quelque chose qui est figé autour de la parole de Mélenchon en permanence, je pense que c'est une erreur pratique. Voilà.
À Marseille, est-ce que les choses...
Non, juste oui. Un mot, parce que j'ai voulu dire une chose qui me travaille, parce que ça travaille tout le monde, et moi aussi. Ce qui me travaille plus, c'est en bas. C'est en dehors de la France insoumise. C'est dans le peuple. C'est-à-dire que l'idée que les gens eux-mêmes veulent se mobiliser autour d'une incarnation et d'un chef, venant d'en bas, pas par décision d'en haut, ça, c'est pas mon espoir. C'est pas comme ça que j'envisage l'émancipation. L'émancipation, pour moi, c'est quand les gens eux-mêmes prennent en main leurs affaires. Mais je suis bien obligé de constater, je sais pas si c'est une évolution de la société, je sais pas exactement à quoi c'est dû concrètement, mais c'est certain que la médiatisation, la façon de parler à la télé, toutes ces questions-là font que les gens ont tendance à travailler comme avec l'OM. C'est-à-dire, ils sont sur les tribunes, mais c'est pas eux qui jouent.
Au-delà de la théorie et la pratique, Jean-Luc Mélenchon est de fait, sa parole porte plus loin que les autres. Ses sorties également portent plus loin et même préjudice à votre mouvement, celui des insoumis. La dernière sortie en date, c'est assez virulente quand même concernant les médias, le parti médiatique, critique des médias, ou est-ce que c'est une démagogie anti-journalistique pour vous?
Écoutez, moi, le terme lui-même...
Parce que, les mots ont été durs quand même. Hein. Il a parlé plutôt de CIA médiatique. La haine des médias et de ceux qui animent est juste et saine. Ça, c'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit. La presse est la première ennemie de la liberté d'expression. On est où, là?
Non, écoutez, moi, je pense qu'il y a un certain nombre de formules que moi, je ne partagerai pas. Mais je pense que les questions qui sont posées à travers ces déclarations, elles, il faut les prendre une à une.
Il y a des questions à travers ces déclarations. La CIA médiatique, il y a des questions. Autre exemple.
Quand Macron vient de décider que le chef de LCP est un militant macroniste, alors je ne sais pas si on peut appeler
ça... La chaîne parlementaire.
Chaîne parlementaire, excusez-moi. Si on peut appeler ça CIA médiatique, parce que CIA médiatique, la CIA, c'est pas toutes les États-Unis. C'est même pas toutes les instances de sécurité des États-Unis. Donc dire qu'il y a une CIA médiatique, c'est-à-dire qu'il y a une cellule, façon au pouvoir de regarder cette question, Clémentine Autain vient d'écrire une tribune dans Libération qui dit on retourne à l'ORTF. Les gens ne se souviennent pas de l'ORTF,
d'accord,
puisqu'on parle de 68.
Samy Joshua, quand tu es un chercheur proche du NPA, votre ancien parti, Julien Saninque, pour le nommer, critique ce vocable. Par exemple, la presse est la première ennemie de la liberté d'expression. Il dit que c'est un vocable qui est proche de l'extrême droite. Il est attaqué, il est vomi sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous trouvez ça normal?
Moi, je trouve que Julien Saninque, il est mobilisé sur la critique des médias depuis très longtemps. Hein, puisque c'est son activité maintenant. Bon, cette bataille qu'il vient de conduire là maintenant, au moment où on ouvre la bataille sur la question des cheminots, etc., je suis pas sûr que c'était. Mais écoutez, c'est un ancien camarade. Je vous dis ce que j'en pense.
Donc, ce qu'il faudrait. Il est aussi un petit peu manipulé. C'est
non, mais pas du tout. Il dit ce qu'il pense. Il a raison de dire ce qu'il pense. Ça l'énerve. Il dit que ça l'énerve. Mais je pense qu'il aurait dû être plus énervé par la manière dont la presse a traité les cheminots. Et que la première chose qu'il aurait dû faire, c'est d'abord ça. Et puis de dire, cette formule, cette façon de faire, là, c'est exagéré. On peut peut-être le faire autrement, on peut le dire autrement. Mais pour revenir à la question que vous posiez, non, dire que bon, les médias, ça n'existe pas. Si les médias, en bloc général, ça n'existe pas, le parti médiatique, c'est une chose, qui une formule qui est ramassée pour faire bouler, pour faire parler, mais qui passe à côté d'un certain nombre, bien sûr, de réalités. C'est-à-dire que dans les médias, ben vous en êtes un. Enfin, bon, le Ravi, il ne peut pas être mis dans le même sac que les autres médias. Donc, il faut regarder l'ensemble de ces questions-là. Mais l'évolution de la concentration des médias, le fait que la pensée qui y domine va de plus en plus restreinte, ça, écoutez, c'est une question sur laquelle on ne peut pas passer à côté. Je ne sais pas comment Bourdieu aurait appelé ça. Je ne sais pas s'il a utilisé les termes proches de parti médiatique ou pas, mais ça ne m'étonnerait pas. Il faudrait les regarder. Bon, j'ai oublié Bourdieu depuis le temps, mais j'étais spécialiste. Bon, je peux regarder parce que c'est la réalité. La réalité des médias, la réalité du point sur lequel on insiste, c'est 2005. C'est la manière dont on a été traité au moment du référendum. Et la manière dont on a été traité au moment du référendum, il n'y a pas un complot quelque part. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit aux journalistes « il faut attaquer les gens qui pensent non ». Ils sont comme ça. Ils sont formés comme ça. Ils pensent ça. Et ils disent ça. Sur les cheminots, vous avez vu toute cette bourgeoisie qui occupait les médias et qui s'est mis à cracher sur les cheminots parce que c'est ce qu'ils pensent. Ils n'en connaissent pas un. Même pas sûr qu'ils prennent le train. Bon. Pourtant, c'est ce qu'ils ont dit. Bon, cette question-là que l'on connaît depuis 2005 n'a fait qu'empirer. Ça, c'est la réalité la plus évidente. Maintenant, comment on l'a fait en 2005 ? Et donc, je reviens sur la question que vous me posez sur Mélenchon. Comment on a fait pour résoudre ce problème-là? On n'a pas fait toute notre campagne en disant « il y a des salauds qui sont dans les médias ». On a mobilisé en bas. On a mobilisé les comités. On a mobilisé, on a gagné le référendum. Mais après, on leur a dit « voyez, vous ne représentez pas le peuple, il y a un problème derrière ». Donc, la question, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Les formules, je mets de côté. La question est tout à fait réelle. Maintenant, savoir comment cette question peut être prise... Et je vais vous donner même, parce qu'on parle de 68, plus proche d'un parti médiatique, l'ORTF, il n'y avait pas. L'ORTF, c'était ça. Le ministre de la Communication avait ses bureaux à l'ORTF. On oublie ça. Et il donnait son imprimatur, son autorisation, ce qui allait être dit au journal télévisé, il n'y avait qu'une seule chaîne, hein, qui allait venir. On avait ça en face. On l'a quand même fait 68, on les a blackboulés. Donc le fait de penser que c'est les médias qui sont le point central qui empêche la mobilisation, ça, d'un certain point de vue, un, c'est leur rôle. Alors, c'est là où on diverge, si vous voulez. Bon, je pense qu'il y a un vrai problème, c'est le boulot qui se sont assignés d'une manière générale, c'est les appareils idéologiques d'État dont parlait Althusser, c'est tout à fait ça. Bon, ils font ça, mais en même temps, ça me travaille moyennement, je veux dire, se faire insulter à la télévision par tel ou tel, ça énerve. Mais après tout, c'est le boulot. Voilà, c'est leur boulot. Bon, donc ce qu'on va faire, c'est la manif du 22, et on va leur mettre la manif du 22 dans les dents, et après on verra.
Michel Guéraud.
Alors, l'émission est très avancée. Marseille, Jean-Luc Mélenchon a fait lever un espoir pour ceux qui ont voté pour lui à Marseille en disant « vous êtes le cratère de la France, etc. Ville exceptionnelle, réponse exceptionnelle ». Il y a des échéances qui arrivent assez rapidement. Est-ce qu'il y a vraiment une envie de la France insoumise de s'emparer de cette ville, de gouverner cette ville. Et est-ce que vous vous y préparez? Parfois, on a le sentiment que c'est pas le moment n'est pas encore venu. Est-ce que, alors, Mélenchon a été le seul élu, personne n'a été élu au moment des législatives. Vous êtes, je me trompe peut-être, mais vous êtes le seul insoumis à avoir un mandat sur Marseille.
Non, on a quelques-uns.
Il y en a quelques-uns. Bon, je me trompe. Est-ce que, selon vous, il y a un travail qui est fait, il y a une réflexion, une mise en réseau des militants dans cette perspective?
Oui, alors.
Il semblerait, encore une fois, que Jean-Luc Mélenchon pense à autre chose, et c'est peut-être d'ailleurs un jeu de rôle. Peut-être que lui, il est sur le national, et d'autres travaillent au local. Est-ce qu'il se passe quelque chose à Marseille?
Non, mais il se passe. Déjà, partons du fait absolument stupéfiant que Mélenchon est arrivé en tête à Marseille. Bon, on nous aurait dit ça à la présidentielle. Hein, bon, on nous aurait dit ça quelques mois avant. Franchement, qui aurait parié là-dessus? En tout cas, pas moi. Hein, voilà. Bon, je vais vous dire honnêtement, lui, oui, parce que lui, il a toujours un optimisme extraordinaire. Bon, mais il n'empêche que ça marque les rapports de force quand même. Ça signifie qu'il y a une possibilité. Mais cette possibilité n'existe que sur la base d'une participation à l'élection très élevée, moins élevée qu'ailleurs à Marseille. Mais très élevé par rapport à ce que les Marseillais votaient d'habitude à la présidentielle, c'est-à-dire quand ça s'exprime vraiment. Donc, il y a des réserves. Bon, cette question-là, on la prend de quelle manière maintenant? Les élections municipales, c'est encore loin. Les gens pensent que c'est encore loin. Le boulot de la France insoumise, c'est de faire en sorte de répondre à la question qu'on nous pose tout le temps dès qu'on intervient. Vous, les politiques, on ne vous voit que pour les élections. C'est quelque chose, si on ne sort pas de cette idée, on est mort. Et je vais vous dire une chose. Six mois après la présidentielle, je distribue un tract à une école. Et quelqu'un me dit, vous les politiques, on ne vous voit que pour les élections. Je vous dis, mais il n'y a pas d'élection. Et bien la personne était tout à fait abasourdie en disant, tiens, c'est vrai, il n'y a pas d'élection, mais pourtant vous êtes là en train de distribuer un tract. Donc si ce travail n'est pas fait, si l'idée existe que ce qui nous intéresse, c'est l'élection qui va venir dans très longtemps, c'est perdu. Il faut d'abord faire le travail de faire en sorte que ça régresse pas trop, qu'on mène les luttes sociales, qu'on mobilise les gens. Après, on verra. Alors, après, on verra quoi? Après, on vous avait posé la question, est-ce que ça intéresse vraiment de prendre Marseille?
Mais est-ce que c'est fait suffisamment? Parce que forcément, il y a eu beaucoup d'énergie mise pendant la campagne. Il y a une retombée, non? Il y a de la
fatigue. Ah oui, non, mais bien entendu. Bon, c'est fait à la mesure de ce que nous pouvons. Donc, évidemment, que la mobilisation. Il y a eu deux aspects, si vous voulez. Il y a l'espoir très important qui a été mobilisé sur le fait que Mélenchon pouvait gagner. Et je ne parle pas de la France insoumise. Je parle chez les gens. Et du fait que ça n'a pas été fait, bon, ça entraîne inévitablement une démoralisation, y compris avec du complotisme que j'ai entendu.
En même temps, il y a eu une législative, il a été élu. Qu'est-ce qui vous manque? Vous avez un leader, vous avez un réservoir de voix. Pourquoi vous êtes à faune un petit peu à Marseille?
Non, on n'est pas si à faune que ça. Hein, parce que si on regarde... Non, écoutez, si vous regardez les autres partis politiques, qui parlent, je veux dire pas seulement pour la prochaine municipale, mais qui parlent politique ici, et en particulier à gauche. Bon, à part nous, personne. Bon, voilà, c'est tout simple. Bon, donc on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on a à faire. Mélenchon est allé au Baumettre, il est allé dans les hôpitaux, il regarde les écoles. Donc ça, c'est son travail de parlementaire. Et nous, le reste, on fait. Mais je reviens, oui, il y a une difficulté, y compris militante. C'est-à-dire que bon, les gens restent pas sur une même mobilisation militante en tant que France insoumise, parce que c'est lié au mouvement social, parce que la France insoumise n'est pas distincte du mouvement social.
Pour aller très très vite, est-ce que vous brainstormez, c'est un mot que vous n'aimez peut-être pas, pour les prochaines échéances électorales, par exemple...
On n'a pas commencé, non.
Il y a des déclarations qui se font dans la presse au niveau national, mais qui peuvent très bien s'appliquer au niveau local. Il y a une unité syndicale, il doit y avoir une unité à gauche, politique à gauche, au-delà de cet appel à mobilisation ponctuelle. Donc certains veulent voir plus loin, comme pour les européennes, Benoît Hamon par exemple. Est-ce que vous, ici, vous travaillez à ce mécano-là ou pas?
Deux choses différentes. Hein. Sur les européennes, la question c'est les européennes. Et sur les européennes, il y a une
les divergence. Européennes et les autres élections aussi.
Oui, mais après il faudra des élections par élection. Sur les européennes, j'allais dire malheureusement, c'est le point sur lequel les divergences avec quelqu'un comme Hamon sont les plus importantes. Puisque lui, il considère qu'on peut arriver à travailler et à faire une politique progressiste dans le cadre des traités tels qu'ils sont. Nous, on ne voit pas comment c'est possible. Voilà. Donc, alors, il nous dit, vous voulez sortir de l'Europe. Ce n'est pas la question. Nous, on ne veut pas sortir de l'Europe, mais on veut mener notre politique. Donc, on ne va pas respecter les traités. Voilà. Et puis, on n'est pas le seul à ne pas le faire. Le Portugal, à côté, c'est
donc,
ce qu'il fait.
Donc, pour aller très très vite, à chaque élection, donc, sa vérité, donc, voilà. À chaque élection...
Alors, pour les européennes, c'est mort.
C'est mort.
On a proposé. Et la réponse de Hamon, toute récente, ça a consisté à dire soit Mélenchon change de politique sur les européennes, soit c'est pas possible.
Et revenons à Marseille.
Mais sur le reste, alors sur Marseille, c'est pas seulement la question de Hamon et des autres. Pour des municipales, c'est une certitude qu'on ne peut pas arriver à mener une campagne et à emporter une ville, surtout une grande ville, uniquement autour d'un seul parti. Mais la question, c'est pas les alliances de partis. Dans une ville comme Marseille, ce qui va compter, c'est savoir ce que feront les milliers de militants qui sont investis dans l'associatif, de manière générale, où ils verront la possibilité d'un avenir pour la ville. Soit on fait un programme avec eux et on se mobilise ensemble et on a une chance, soit ça ne sera pas le cas et ça ne sera pas remplacé par les accords de parti et des fronts de parti, ça ne suffira pas.
Est-ce que Mélenchon a raison de ménager Gaudin comme il le fait, comme un peu tout le monde? Il a dit à propos de Gaudin, Mélenchon, ce qu'il a à dire sur Marseille compte, je lui parle, je l'apprécie comme homme, partout où je vais, les gens critiquent durement la municipalité, je n'entends pas le nom du maire. Est-ce que c'est une stratégie...
Écoutez, moi j'entends le nom du maire en même temps que l'on critique la municipalité. Moi je me suis opposé à Gaudin depuis très longtemps, je continue à le faire. Je pense... sur ce point que son ancien allié, président de région, a raison. Son bilan est catastrophique d'une manière générale et il est catastrophique pour nos quartiers. Donc on ne peut pas enlever la responsabilité du maire en place. Il n'est pas seul, c'est sûr, hein, mais bon, il est là depuis tellement longtemps. Donc c'est évident que ce qui est en cause maintenant dépend des politiques qu'il a conduites. Et moi, ce n'est pas l'homme. Hein. L'homme, c'est encore une chose. Par exemple, moi, j'ai été élu avec Hermie, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Gaudin avait vis-à-vis d'Hermier un respect que l'on ne retrouvait pas chez beaucoup de gens, parce qu'il reconnaissait le travail qu'il avait été fait, était prêt à discuter. Donc c'est pas en tant qu'homme. En tant qu'homme, la question est, je le connais pas, moi, Gaudin, directement. Donc j'ai rien à dire en tant qu'homme, c'est pas le problème. Mais en tant que politique, bien sûr qu'il faut en finir avec cette politique.
L'émission va se terminer. On n'a pratiquement rien dit sur le FN. Et pourtant, vous siégez, on l'a dit, face à un maire FN, maintenant sa nièce. Un mot là-dessus, sur ce Front National, sur l'extrême droite municipale?
Écoutez, je pense qu'ils sont affaiblis, mais que le danger reste là. Voilà, ça c'est le résumé de l'affaire. Ils sont affaiblis pourquoi? Parce que on va parler du FN local, du FN national, tout le monde voit pourquoi ils sont affaiblis si on a peu de temps, mais pour le Front National local, parce que la politique menée par Ravier chez nous, hein, dans le 13-14, est une politique qui considérée par de larges parties de la population comme un échec. Ça n'a servi à rien, ça n'a fait qu'à durcir les problèmes que nous pouvions rencontrer.
En même temps, c'est une politique de la parole. Il est juste maire de secteur dans une ville où il y a la loi PLM. Il a aucun pouvoir quasiment.
Non, c'est pas vrai. Alors il a peu de pouvoir. C'est pas la peine d'épiloguer là-dessus. Il a peu de pouvoir. Il a 2 euros par habitant comme budget. Donc avec ça, c'est pas avec ça qu'on peut. Mais en tant que ministère de la parole, puisque vous parlez de ça, il peut faire des choses. Nous étions en manifestation, samedi, pour faire en sorte que la station de métro, qui est finie, terminée, complètement terminée depuis deux ans, ouvre enfin au marché aux puces. Ça concerne le 13, c'est le 15e, hein, mais ça concerne évidemment le 14e aussi. On est en mobilisation, il n'y avait personne de la mairie. Donc même en tant que ministère de la parole, il choisit les paroles qu'il dit. Il va défendre telle ou telle partie de son secteur, mais pas telle autre. Et il mène campagne contre des secteurs de sa population, contre certaines cités populaires, contre ce qu'il a fait à la Busserine, par exemple, pour essayer de les mettre à genoux.
Donc, et Ravier pratique le népotisme, parce que maintenant, c'est sa nièce qui est maire.
Alors ça, bon, il fait ce qu'il peut, parce que, je vais vous dire, sa mairie, il a perdu tellement d'élus, que c'est ce qu'on a vu au moment du passage de pouvoir. Il a maintenant 4 voix de majorité. Et parmi ces 4 voix de majorité, une... qui n'est pas vraiment de majorité, puisque quand nous étions tous sortis de la salle, quand ils ont élu les adjoints, il y a quand même eu un vote blanc. Donc, s'il continue à perdre un certain nombre de personnes, il va perdre même sa propre majorité dedans. Donc, il est affaibli. Mais attention, ça ne veut pas dire que le risque du Front National a disparu. Moi, je ne partage pas cette idée-là. Je pense qu'ils sont assis sur une idée majeure, qui est celle du racisme, et celle-là, elle n'a pas disparu du pays.
On restera sur ces paroles. Samy Joshua, je vous appelle Samuel depuis tout à l'heure. Samy Joshua, pardon. Merci d'être venu. Un dernier mot, Michel, à propos du Ravi.
Le Ravi, donc, on a mené notre campagne pour passer l'hiver. Et ben voilà, c'est le printemps. 700 personnes ont participé. On a levé 30 000 euros. On a recueilli 500 nouveaux abonnés. Ça nous donne de l'élan. Pas suffisamment pour passer 2018. Donc, l'enjeu pour une presse pas Paris régionale, il demeure. Il faut toujours s'abonner à ce journal. C'est important. www.leravi.org.
On s'abonne au Ravi. On se retrouve le mois prochain. Bye.